2015, à Luc en Diois, nous accueillons Monsieur Boris Pahor. Nous aurons le plaisir et l'honneur de l'accueillir parce que Monsieur Boris Pahor est un écrivain d'origine slovène qui vit à Trieste, juste à la frontière avec la Slovénie, frontière avec l'ex-Yougoslavie. Il est né en 1913. Donc, si on fait le calcul, il est déjà très âgé, mais il n'aime pas beaucoup qu'on lui parle de son âge. Seulement, voici un peu plus de 20 ans, et déjà, il a été invité à Die, il y a 20 ans, lors du festival Est-Ouest. Et en 2013, il était invité d'honneur du festival dont le thème était Trieste. Il n'a pas pu s'y rendre pour raison de santé, ce que l'on comprend aisément. Donc, Boris Pahor est quelqu'un qui peut s'exercer dans deux dimensions à la fois. À la fois, c'est un écrivain, un véritable écrivain, qui s'exprime dans une très belle langue. D'ailleurs, j'espère que vous apprécierez les extraits que j'ai choisis pour vous. Mais en même temps, c'est aussi quelqu'un, un témoin du siècle passé, témoin assez tragique, puisqu'il a vécu très concrètement, tous les errements du dernier siècle. Boris Pahor, c'est l'homme qui a dit trois fois non. Non aux trois totalitarismes, le fascisme, le nazisme et ensuite le communisme. Et c'est également un homme qui en a payé les frais, puisqu'il sera interné au camp du Struthof en Alsace, qu'il a largement contribué à faire connaître en France et qui est devenu depuis Mémorial européen de la résistance. Donc, à ce sujet, il y aura trois jours, des événements sur trois jours à Luc en Diois. Le jeudi sera plus spécialement consacré aux scolaires, parce qu'il est important, enfin pour tous les déportés d'ailleurs, il est très important de transmettre cette mémoire, non pas comme ça pour rien, mais ils ont le souci que ce qu'ils ont vécu ne se reproduise plus. Et ils ont surtout le souci très grand de s'adresser à la jeunesse. Et aujourd'hui, plus que jamais, je crois que ces témoignages, enfin ces derniers témoins qui nous restent sont importants. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle qui s'appelle « Le berceau du monde », qui est elle aussi tirée de l'arrêt sur le Ponte Vecchio. Mais tout d'abord, reprendre ce que nous avions dit la dernière fois. Donc, entre la parole impossible et l'amnésie interdite, pour Boris Pahor, l'écriture serait le lieu de ce qu'on appelle la non-mort, le lieu du chemin possible. Il va renaître au langage et se faire chroniqueur du désastre. Mais le simple récit ne suffit pas. L'écrivain, le vrai écrivain, est un magicien. Il se rend maître d'un langage, une langue perdue, mais que ses phrases vont métamorphoser. Les textes de Pahor sont poétiques. Il est difficile parfois de vraiment les savourer dans la traduction française. C'est l'œuvre de toute une vie, jamais définitivement close ni achevée. Il va vouer sa vie à sa machine à écrire, une vieille Remington, où il frappe les touches à deux doigts. Donc, toute son œuvre sera une tentative sans cesse à recommencer pour raconter, alerter. Lui qui a connu le pire appelle à la vigilance afin de dénoncer ce qu'on appelle la bête immonde de Bertolt Brecht, l'ogresse dont l'appétit vorace jamais ne sera rassasié, l'hydre aux têtes multiples qui repousse chaque fois qu'on les coupe. comme en témoigneront d'autres temps, d'autres lieux et d'autres désastres, Sarajevo, Vukovar, le printemps des machettes au Rwanda, la Syrie, le Cambodge. Elle persiste, elle fait semblant d'être endormie, mais dès que l'occasion se présente, elle est là. Quant à Boris Pahor, lui, il continue à se battre avec la langue. Et mine de rien, lui, à travers la beauté de son écriture, arrive à dire l'indicible. Ainsi, le retour à l'île du rescapé des camps, le berceau du monde. Donc, à l'île arrivent trois déportés. Ils sont revêtus de leurs pyjamas rayés. Donc, cette nouvelle toujours tirée du même recueil de nouvelles. Ils arrivent dans un monde absurde pour celui qui revient des camps. Ils n'arrivent pas à le reconnaître parce que eux, ils sont superflus. Ils sont devenus étrangers. Donc, tout d'abord, dans la nouvelle, ils vont s'arrêter complètement sidérés devant une vitrine de sous-vêtements féminins. Un barbier va les raser gratis. Évidemment, cela rappelle tout de suite le rasage au camp. Il y a d'ailleurs une scène dans Pèlerin parmi les ombres qui est véritablement très pointue, très bien vue, où il décrit le rasage justement des poils superflus. Ensuite, alors qu'ils sont à Lille, ils apprennent que l'on vient de pendre le Duce Mussolini par les pieds. Ensuite, dans la nouvelle, un homme veut absolument leur faire quitter les pyjamas rayés, en leur proposant des chaussettes de laine et des caleçons qui sont complètement déplacées puisque nous sommes au printemps. Alors, j'ai choisi un extrait parce qu'il montre bien que Boris Pahor ne se contente pas de dire, de témoigner, mais qu'il est véritablement un écrivain. Et il va utiliser une sorte de rêve. Il est chez le barbier, il s'endort pendant que le barbier le rase. Et il va utiliser ce rêve pour dire l'absurdité du monde concentrationnaire, du monde totalitaire. Et quelque chose d'absurde où l'espace et même le temps sont démantelés. Et dans le rêve aussi entre violence et non-sens. Donc, je lis. Le rêve. Je ne me rends pas compte du moment où René arrache le rasoir des mains du coiffeur et se jette sur le ventre, le bas-ventre du pendu qui a la tête en bois, en bas. C'est moi qui le raserai, crie-t-il. Mais c'est le gros Dutch qui est le plus visible au milieu des momies vivantes. Il regarde autour de lui et son bas-ventre brille comme une calvitie. Et je me dis que c'est ainsi, tel est pris qu'il croyait prendre. Et je me rappelle l'avoir prévenu un jour qu'il n'arriverait à rien. À l'époque, il était venu chez nous, mais il ne m'avait pas entendu, j'étais trop loin, et tous autour de lui braillaient son nom comme des fous. Maintenant, il jette un regard sur son thorax qui ressemble à de la poitrine fumée. Et il est indécent, tout blanc et gras, sous la douche qui rince les momies de leur savon si jaune que l'on croit voir des ruisseaux d'urine couler sur le ciment. Deux momies sont couchées par terre parce qu'elles ne peuvent plus tenir debout pendant ce temps d'autres sortent en courant et chaussent des galoches. Alors, le doute aussi veut partir et René lui fourre en vain ses chaussettes en laine dans les bras. Qu'en fera le doute? Et du caleçon? Maintenant, il n'en a plus besoin, dit le vieux coiffeur, en secouant la serviette blanche après avoir terminé son rasage. Tu n'auras plus besoin de chaussettes, mon cher, et il ne faudra plus non plus te raser le bas-ventre. Les poux ne s'installeront plus dans tes poils. Pourtant, cette serviette n'est plus la serviette du coiffeur. C'est un drap que mon oncle tient dans ses mains, dans le grenier à foin. C'est un drap qui appartient à ma tante. Elle l'a donné pour moi, pour que le foin ne me pique pas. Il ne faut pas le jeter, mon oncle. L'oncle rit, il roule le drap en boule et le lance, et le tissu me couvre la tête et la bouche. Mes mains palpèrent l'épaisse toile et je libérai mon visage. Et je tentai d'évoquer un champ de lin, mais Je n'avais jamais vu pousser le lin, ni broyer ses tiges. C'est pourquoi je restais immobile, à chercher des images de femmes qui filent cette matière tendre. Non, maintenant les femmes ne filent plus, pensais-je, en souhaitant qu'il en existe encore quelque part et qu'elles recommencent à tisser de nouvelles fibres pour moi, pour mon tissu usé. Le berceau du monde, c'était le titre de la nouvelle. En fait, cette nouvelle fut trouvée lors d'une rencontre. J'étais avec l'écrivain à Paris, au Jardin des Plantes, dans la galerie de l'évolution où l'on voit le défilé des animaux préhistoriques. Et donc, la question serait, quel serait le berceau du monde? Est-ce que c'était justement ce défilé des animaux préhistoriques qui ensuite nous aurait donné naissance? Est-ce que ce serait plutôt les mains d'une femme? Car au début du berceau, Boris Paor écrit « Il n'y a jamais de représentation du crucifié sans une femme qui protège son corps et reste à ses côtés, le cœur et les yeux remplis de bonté, et d'impuissance. » Un jour, Boris Paor s'était demandé qu'est-ce qu'il reste de valable, qu'est-ce qu'il resterait de valable. Après un temps de réflexion, il a dit la beauté. Et puis, après encore un moment, il a ajouté la bonté. La beauté et la bonté. Toutes deux abreuvent le monde, elles nous irriguent, pour peu qu'on sache les reconnaître. Beauté, générosité prodigue de la nature. Pour Boris Paor, elles sont indissociables de la femme. Ou plutôt, on pourrait dire aussi du féminin, le féminin qui est en tout être, homo femme, et qui est la part de nous qui accueille, qui écoute, la part qui est pleine de compassion. Et pour Boris Paor, davantage, le berceau du monde, la beauté et la bonté, serait la rencontre de l'homme et de la femme. Mais le chemin est aride. Quelque part, il faut apprendre à les découvrir. Pour chacun de nous, mais plus encore pour ceux qui ont vécu l'indicible. Et la quête de l'amour serait une sorte de Graal semé d'embûches. Pour illustrer cette quête, j'ai envie d'utiliser un petit poème d'un autre Slovène qui s'appelait Kozbek et qui était un ami de Boris Pahor. Donc le poème: sur le fin jet d'eau de la place, danse une bulle en vol fragile. Elle va choir, il la reprend. Ainsi amour nous abandonne et s'en revient pour nous bercer. Ce poème illustre pleinement le roman de Boris Pahor, écrit en 1958, qui s'appelle « Printemps difficile ». Printemps difficile du retour à la vie et à l'amour. La rencontre est-elle encore possible pour les sortes de fantômes revenus des camps? Arlette est une jeune infirmière dans le sanatorium de Villiers-sur-Marne, où on soigne la tuberculose du déporté. L'escapade à Paris, ville faite pour l'amour, tournera allègre. En effet, la jeune Arlette pleure son petit chat, tombé par la fenêtre de l'hôtel, et qui est mort. Voici ce que écrit Boris Pahor. Maintenant, la question était encore une fois de savoir si celui qui a été infirmier là-bas avait pour mission de protéger et de soigner un être comme elle, ici, chez les vivants. Limiter son horizon à une fillette qui éprouve un tel chagrin à la mort d'un simple chat? Lentement, il dégagea la main de sous son corps. Inopinément lui apparurent les jeunes Alsaciennes, en fait elles étaient vosgiennes, que les camions avaient emmenées avec le crépuscule. Et il constata avec quel naturel il s'était retiré de son monde, du monde d'Arlette, pour entrer dans un domaine auquel elle n'aurait jamais accès. Parce qu'à l'époque, ces jeunes filles n'avaient jamais pleuré. Pourtant, ne savait-elle pas à quoi aboutissait ce transport au camp d'extermination vosgien? C'étaient des femmes et des filles du pays qui avaient été prises et enfermées au camp de Schirmeck. Car c'était épouvantable, cette arrivée des véhicules qui descendaient la côte en pleine nuit. La satisfaction de savoir que les alliés approchaient, que les avions survolaient les montagnes, que les SS creusaient des tranchées autour du camp avait disparu. Face aux filles jetées dans la paraprison, à quelques mètres du four qui ne s'éteindrait pas, ils avaient encore une fois été vaincus. Et ces images étaient accompagnées d'une idée insensée. On étouffait leur virilité en mettant à mort ces filles faites pour aimer et perpétuer la vie et qui, de l'étroite cheminée, s'élevaient et voletaient en étincelles. Quand ils avaient vidé les baraques pour partir à Dachau dans des wagons à bestiaux, un médecin à cheveux blancs leur avait raconté. Un SS leur avait fait traverser une à une, l'espace vide qui séparait du four, l'une après l'autre, à intervalles réguliers. Aucune ne pleurait, elle marchait silencieuse et calme. Lui se souvenait maintenant d'elle, à cause de ses sanglots. Sangloter à cause d'un chat. Il regardait fixement devant lui, comme s'il entendait le roulement du camion, comme s'il voyait les filles et entendait les coups de feu. Car, c'est certain, il ne les avait pas pendues au crochet. Ça aurait été trop long.
Thank you.
Ça, c'est moi qui parle. La rencontre de la femme et de l'homme n'est pas aisée, mais toute de finesse et de délicatesse. Les dernières lignes du printemps en célèbrent la poésie. Bien sûr, Boris Paor et Arlette se sont retrouvés. Je lis. Leur corps était séparé et il eut l'impression qu'il l'avait éliminé de son monde. Une faille s'était ouverte, laissant passer un vide imperceptible. En même temps, sous son tailleur gris, son corps lui était familier. Il était vivant pour lui. Elle désirait la toucher pour que revînt au-dessus d'elle le halo de son charme. Un mot suffirait, un sourire d'argent, un mouvement de bras avec de petites rides sur la paume, un contact de ses doigts. Et même s'il ne s'agissait pas d'une garantie suffisante pour l'avenir, il sentit que son charme réapparaissait, qu'il était en route, qu'il arrivait de quelque part, tout prêt, justement, à renaître son charme.